savez, c'est ce qui s'est passé à la transfiguration du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur, bon Dieu, au Saint-Esprit, à l'Immaculée, de nous aider à méditer, à contempler, à voir ce qui est caché en dessous. On s'imagine bien que derrière ce mystère de lumineux-là, il doit y avoir bien des choses qui se cachent. C'est vrai, il doit y avoir certainement pas mal de choses. D'ailleurs, quel est le mystère où ne se cache pas du rosaire, où ne se cache pas une immensité de trésors? Évidemment, le pape dit à propos du quatrième mystère lumineux, c'est évidemment par excellence le mystère lumineux. C'est le mystère lumineux par excellence. Il ne dit pas grand chose le pape quand il annonce les mystères lumineux. Très peu de choses finalement. Et à propos de ce mystère-là, évidemment, voilà, on est tout à fait dans le mystère, à proprement parler, de la lumière. C'est un mystère de force. C'est la lumière dans toute sa force. Par excellence. Il y a beaucoup de saints, beaucoup de docteurs de l'Église, beaucoup de personnes ont contemplé le mystère de la transfiguration. Jésus transfiguré, ça veut dire, définition du mystère de l'Immaculée Conception, c'est qu'elle est, dans la coupe de la blessure du cœur de Jésus, un mariage, une unité, une communion de personnes entre le Verbe de Dieu qui porte le cadavre de Jésus dans une passivité d'amour substantiel total, et puis l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui est aussi une personne divine, qui se contemple elle-même comme étant l'amour à l'état pur, la jouissance totale, une passion amoureuse. C'est la passion agréée d'amour, c'est l'Esprit Saint, le Père, le Verbe, l'Époux, le Père, et le Verbe de Dieu ne cesse éternellement de disparaître l'un dans l'autre dans une sponsalité divine, éternelle, incréée, avant la fondation du monde. Ils disparaissent, ils sont recueillis dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'aime pas, si je puis dire activement, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin, c'est ce que disent les définitions des grands crédos de l'Église. L'Esprit Saint, lui, il est passif, il reçoit, il jouit de l'amour du Père des Fils, c'est une fruition d'amour, il bâtit l'amour. L'amour est si fort entre le Père et le Fils qu'il est lui-même cet amour, et il est impossible, c'est indépassable, il ne peut pas donner davantage, il ne peut qu'en bâtir et qu'en jouir. Cette contemplation de l'Esprit Saint, une passivité, il faut la contempler, il ne faut pas seulement le dire, la définition de l'Église là-dessus. Et cette passivité d'amour, Dieu le Fils, le Verbe incarné, l'engendré de Marie, d'un seul coup, dès que Jésus est mort, il le vit aussi. Cette passivité, il est totalement passif, il est mort. Dans le corps cadavérique de Jésus, il y a une passivité substantielle. Et donc l'amour intime, qui est toujours actif dans Dieu le Père, de Dieu le Fils, se trouve là, dans un état passif. Et c'est pour ça qu'il y a une communion entre l'Esprit Saint et le Verbe de Dieu. Entre l'épouse et l'esprit, comme l'explique l'Apocalypse. L'esprit et l'épouse disent l'un. Et ce vient, c'est l'Immaculée Conception. On ne peut pas lire l'Apocalypse si on n'a pas compris ça. Vous voyez, il y a deux personnes de la très sainte Trinité, l'Esprit Saint et le Verbe de Dieu, qui sont dans un amour de similitude. L'Esprit Saint, qui est une passivité substantielle d'amour, a engendré ce qu'il était. Par la croix, Jésus, si je puis dire, a sorti du Saint-Esprit cette passivité d'amour pour lui-même. Et il y a une unité, c'est pour ça qu'on peut dire que vraiment Jésus a été épouse du Saint-Esprit, là, dans la blessure du cœur. Et c'est vraiment incroyable, mais c'est pourtant vrai. Cette communion entre ces deux personnes de la très sainte Trinité va expliquer le mystère de la transfiguration. Parce que il n'y a plus ni Esprit Saint dans la passivité intime de sa vie intime de personne, ni de Verbe tout entièrement donné passivement dans la blessure du cœur de Jésus. Ils sont tous les deux ensemble, un seul Dieu. Et cette communion des personnes va donner, parce que c'est fait quand même comme dans une coupe créée, hein, le coup de lance, ça s'est passé dans un moment créé, dans un moment du temps. Ce n'est pas dans l'incréé, mais c'est deux personnes dans leur vie divine incréée qui se trouvent dans un temps précis de notre histoire, à cause de Marie, à cause de Jésus, à communier d'une unité sponsale. Quand je mélange du jaune avec du bleu, ça donne du vert. Alors, le fruit de cette communion, c'est l'Immaculée Conception. Voilà pourquoi l'Immaculée Conception est créée. Et pourtant, elle est bien le fruit de la communion sponsale de deux personnes divines dans la blessure du cœur de Jésus. Ça, c'est Cana. C'est Cana. Elle est le mariage à l'état pur. L'unité sponsale créée à l'état pur. Et c'est le deuxième mystère lumineux. C'est une lumière incroyable. Parce que c'est la seule raison qui motive que nous sommes avec une différenciation sexuelle. Il n'y a pas d'autre motif du Créateur. Ah, si on le savait. absolution incarnée. Elle ne te demande qu'une seule chose. Elle n'a demandé qu'une seule chose depuis cette intégration de Jésus, par Jésus, de elle comme femme, pour le sacerdoce du Fils de l'homme, pour pardonner les péchés. Elle ne cesse de vouloir être effacée dans cette unité responsable pour qu'il y ait une fécondité. Une fécondité. Et cette fécondité, c'est qu'elle se qu'elle est, l'absolution se communique, le pardon se communique. Et voilà pourquoi Jésus va rassembler les disciples, c'est proclamer le royaume de Dieu, annoncer la bonne nouvelle, le pardon est accordé, le mal est détruit, les maladies sont guéries, les résurrections de mort sont là. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le royaume de Dieu s'approche de nous. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Une vie nouvelle apparaît. C'est un mystère lumineux. C'est vraiment un truc complètement incroyable que ce mystère lumineux qu'on a vu la dernière fois. C'est trop beau. C'est trop beau. Et Jésus a bien expliqué. On voit très bien que Marie s'efface pour que ce soit les disciples. Faites tout ce qu'il vous dira. Et on voit que du coup Jésus s'efface. Parce que Jésus s'est toujours mis en dessous de Marie, puisque c'est la foi de Marie qui fait qu'il va incarner quelque chose dans sa chair, dans le monde. Le Verbe de Dieu va incarner quelque chose dans sa chair humaine, dans le monde, par la foi de Marie. C'est l'acte de foi de Marie qui engendre la proclamation du royaume de Dieu, le choix des disciples. Jésus n'aurait pas choisi de disciples s'il n'y avait pas eu cette assomption de Marie en lui. Et cette foi, et du coup, cette foi, elle pénètre tellement loin à l'intérieur de la très sainte Trinité, tellement loin, que du coup, la très sainte Trinité est obligée, pour ainsi dire, de passer par sa foi pour donner au Fils de cette semaine-là aussi que Jésus a guéri la femme qui perdait du sang et qu'il a ressuscité la vierge fille de la synagogue. Le sixième jour, six jours plus tard, d'après saint Matthieu, six jours plus tard, Jésus emporte avec lui trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Ça me plaît, moi. Et il les emporte. Le mot grec est très joli. C'est de là que vient anaphore. Il les offre, il les emporte pour les offrir. Les anaphores, vous vous rappelez, quand les femmes arrivent au tombeau, elles apportent, ce sont les anaphores, elles apportent les parfums pour le, les parfums pour la blessure, pour les blessures de Jésus, pour le corps de Jésus, pour l'Immaculée Conception en fait, puisque le corps de Jésus est porteur du Verbe de Dieu, s'unissant à l'Esprit Saint et disparaissant pour donner le mystère de l'Immaculée Conception. Les anaphores, c'est cette offrande de l'Immaculée Conception à travers les parfums qu'apportent les femmes. C'est aussi dans cette semaine-là que c'est dans ce chapitre en tout cas que saint Luc dit, explique, montre les femmes qui étaient tout enveloppantes de Jésus, qui étaient autour de Jésus pendant la prédication de l'évangile. C'est intéressant, tous ces, c'est pas par hasard évidemment, le sixième jour, six jours après. Alors en plus saint Matthieu qui dit six jours après, oh, mais ça c'est intéressant, ça c'est très intéressant. Six jours après, déjà, vous voyez, le sixième jour, Dieu avait créé l'homme et la femme. Au sixième jour de la création, vous vous rappelez que ça c'est très intéressant, parce que l'homme quittera son père, voilà pour l'incarnation à cause de Marie, et sa mère, hein, voilà pour la crucifixion et l'ascension. Il s'attachera à sa femme, voilà pour la transverbération. Oh, quand Marie a touché la blessure du cœur de Jésus, physiquement, elle est passée de l'Immaculée Conception à la transverbération. La transverbération, c'est ce qu'on touche dans notre chair, dans l'instant, la blessure du cœur de Jésus. La transverbération est possible. Il s'attachera à sa femme, transverbération. Et les deux ne feront plus qu'un. Assomption. C'est le sixième jour, ça, de la création. Oh, le sixième jour, vous savez, vous rappelez, on l'a fait au deuxième mystère de Cana, deuxième mystère lumineux. Le sixième jour, il y eut des noces. Et pour la troisième fois, la transfiguration, on a encore six jours. Six jours après. Ça, faut noter ça, hein. Ça montre bien, c'est Marie qui est visée, hein. Et Jésus vient de ressusciter la petite vierge, fille de la synagogue. Franchement, si quelqu'un ne comprend pas là, parce que qui est la vierge fille de la synagogue? C'est Marie, la fille d'Israël, qui vient. Et Jésus ressuscite la fille de Jaïr. Dire qu'il y a une virginité nouvelle. Je veux dire par là, voyez, à travers ce texte, il y a une virginité. Jésus voit, admire dans la foi de Marie une virginité nouvelle, toute différente de la virginité surnaturelle, parfaite et plénière qu'il a saisie lorsqu'elle est rentrée par la foi dans la très sainte Trinité. Du coup, il a voulu s'incarner en elle. Une autre virginité. Nouvelle virginité. L'Église, le peuple de Dieu, avait l'épouse foi, a tellement intégré toutes les fruits du troisième mystère lumineux de la prédication de l'évangile, de la Haggadah. Elle a tellement intégré que du coup, elle a eu une virginité nouvelle. C'est plus la même. La résurrection, la fille de la synagogue. C'est extraordinaire, hein, que dans la semaine qui précède la transfiguration, vous avez les trois blancheurs, vous voyez. Vous avez la multiplication des pains. Vous avez Marie, la résurrection de la fille de Jaïr. Et puis, vous avez le pape, Pierre, qui dit, tu es le Messie, fils du Dieu vivant. Jésus dit, tu n'as parlé à personne. C'est quand même assez incroyable. Je me suis amusé un petit peu. Oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est on trouve la transfiguration dans trois passages du Nouveau Testament. Donc au chapitre 17 de Saint Matthieu, au chapitre 9 de Saint Luc, et aussi dans la deuxième épître de Saint Pierre. Alors, je me suis amusé avant-hier à calculer. Dans Saint Matthieu, chapitre 17, quel était le verset de l'évangile ? C'est le... Et je me suis dit, je vais aller jusqu'à 555. Parce que 555, vous le savez, c'est le mystère de l'Immaculée Conception, dans son déploiement, dans sa clarté glorieuse finale. C'est la signification théologique de ce chiffre. Eh bien, vous me croirez si vous voudrez, on arrive au dernier verset. Le verset d'après, c'est la transfiguration. Alors Jésus prit avec lui trois de ses disciples. 555e verset du Nouveau Testament. C'est pas beau ça? C'est pas extraordinaire? Et après, vous voulez pas croire que c'est le mystère de Marie? Jésus venait de dire, pour conclure le mystère, dans 555e verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, le royaume de Dieu, toutes ces choses vont s'accomplir quand vous le verrez venir, le Fils de l'homme, avec tous ses anges du ciel. Et certains d'entre vous ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme dans toute sa puissance. 555e verset de le Nouveau Testament. Ça veut dire que Marie a intégré cette parole dans ces paroles, toutes les paroles qu'on a vues là dans la méditation du troisième mystère lumineux, la proclamation de la Haggadah, la naissance vivante de la grâce, de l'enfance divine, une nouvelle vie surnaturelle, une enfance humaine, une innocence nouvelle, qui fait qu'on est tellement puissant, tellement forte qu'on peut aller jusqu'à la fin et vivre déjà de la fin du royaume de Dieu sur la terre et venir déjà en vivant, vous voyez, ce qui va se passer à la fin quand Jésus, dans la plénitude du royaume de Dieu, cette plénitude du royaume de Dieu, ce plérôme, comme on dit en grec, du royaume de Dieu. Vous comprenez bien que Jésus dit, ne regardez pas en arrière, c'est dans l'instant présent. Et tout petit, la graine en ce moment, tout petit, c'est vrai. Mais un arbre immense, tout petit, le levain, mais la levée de la pâte. Mais oui, tout ça, c'est extraordinaire. C'est, si vous voulez vivre du royaume de Dieu, regardez dans ce qu'il est, lorsqu'il est totalement accompli dans le royaume de mon Père. Et tel qu'il est, lorsque je reviendrai avec mon royaume, avec mes anges et avec mon royaume. c'est parce que je suis pardonné moi, hein ? Non, surtout pas. Je vais de la grâce parce que, à la fin de la miséricorde, le pardon est total, universel, absolu, perpétuel, continuel, intense. Il se communiquera de manière de plus en plus intense, éternellement dans la gloire. Et c'est cet royaume de Dieu-là dont je vis dès maintenant et qui fait que j'ai la grâce. Il y en a qui ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. C'est l'Immaculée, bien sûr, elle ne peut pas mourir, elle en vit déjà, elle intègre ça. Tout ce que Jésus explique par signe, par sacrement, tout ce que les disciples font parce que Jésus l'engendre par son verbe et sa parole, et eux, ils le réalisent par leurs actes et leurs signes. Et c'est Jésus qui les réalise en eux. Elle intègre tout ça, elle comprend tout ça, elle sait tout ça, elle entend tout ça. Comme l'ange Gabriel lui est apparu une fois, la proclamation du royaume de Dieu, c'est le nouvel ange Gabriel pour l'Immaculée Conception. Et elle doit croire. Elle doit croire. Elle comprend que toute cette proclamation du royaume de Dieu, qui est un signe du pardon, que ce pardon doit aller jusqu'à la fin, qui doit être universel, qui doit être perpétuel et glorieux, qu'il doit être une toute petite nouvelle vie. Une nouvelle vie, comme Jésus l'a expliqué à Nicodème, c'est une vie totalement nouvelle, une enfance totalement nouvelle, une innocence tout à fait nouvelle, et elle le vit. Elle dit, je dois vivre autre chose. Elle l'a compris. Elle doit croire. Elle doit le croire. Et elle dit, mais comment je vais faire? Puisque je ne sais pas comment ce que l'humanité vit. C'est toujours la même parole, hein, la réponse de Marie. Comment vais-je faire puisque je ne connais pas d'homme? Mais comment je vais faire puisque je ne sais pas l'état dans lequel est l'humanité blessée par le péché originel? Je n'en ai pas, je n'en suis pas moi-même. Par grâce, mais l'Esprit Saint au bon, le Père te prendra sous son manteau. La paternité vivante et éternelle de Dieu te prendra sous son manteau. Et le supervenu du Saint-Esprit te fera faire ce qu'il fera lui-même à travers toi. Alors elle dit, je veux bien croire. Et elle est devenue une vierge nouvelle. Une virginité nouvelle est apparue en Marie, et c'est ça qu'il faut contempler, la mise à la transfiguration. Vous voyez, la première Pâque de Jésus, c'était quand Jésus a chassé les vendeurs du temple à peu près, hein, tout de suite après Cana. Chasse aux fureurs. Et la deuxième Pâque que Jésus a vécue en Israël, merci, c'est ça. Je m'excuse, j'aurais dû remplir la chose avant de commencer. Ça sent très très fort, ce pétrole, quand ça s'arrête, vous savez. Ça donne mal à la tête en plus. Vous avez mal à la tête, mais ne vous posez pas la question pourquoi, hein, c'est à cause de ça. Et donc Marie a trouvé une nouvelle virginité. Elle a d'abord été épousée, elle est devenue mère de l'Église, et elle est devenue la vierge. Jésus assumait dans sa foi, elle devait être médiatrice de ce pardon, de cette guérison, de cet relèvement, de cette résurrection des morts, cette proclamation de la lumière dans les ténèbres, la disparition des ténèbres. Elle était médiatrice de ça, mais alors elle n'avait pas pensé que, en le faisant, cette lumière-là, Jésus ne pouvait pas ne pas révéler d'où elle venait. Jésus, dans cette semaine-là, était en Galilée. Il était en Galilée, il parcourait toutes les villes de la Galilée, et je suis plus que convaincu que puisqu'il est traité ici du sixième jour, je suis plus que convaincu que juste avant de monter sur le mont Tabor, il était à Nazareth. Ça me paraît impossible autrement, parce qu'on ne parle pas de sixième jour s'il n'y a pas le nouvel Adam, la nouvelle Ève ensemble. Et ils ont été dans le lieu de la Sainte Famille. Et là, je suis sûr qu'avec quelques-uns de ses disciples, il était là et peu qu'il a révélé à certains de ses disciples. Il a révélé le secret de Marie. Moi, j'en suis sûr. Sinon, je crois que ce serait pas normal. Sinon, Jésus n'aurait pas été jusqu'au bout du quatrième commandement de Dieu. Et jusqu'au bout des paroles qu'il venait de prononcer et des gestes qu'il venait de faire. Alors, Jésus est tout à fait. Il est la vérité, la vie, l'amour, et il est le chemin. Et donc, c'est sûr qu'il a été là. Je l'imagine. Et il faut essayer de l'imaginer. Il y a l'évangile, il y a les textes, c'est évident, mais il y a la contemplation du mystère aussi. Et cette contemplation de ces textes sont là pour faire naître, grâce à l'Esprit Saint caché en dessous, la contemplation du mystère. L'Esprit Saint est le Verbe de Dieu. Désire bien sûr que, puisque la lumière est en train de jaillir au milieu des ténèbres, que ça ira jusque dans le royaume de Dieu qui viendra à la fin du monde dans son accomplissement. Cette lumière-là, il faut bien sûr qu'elle soit mise sous le boisseau, dans sa substance, dans sa source. Je suis sûr qu'il a dit aux disciples, attendez, ça, Marie, ne croyez pas que Marie soit simplement la mère de mon humanité. Marie est la mère de ma divinité. Marie, elle a obtenu cette lumière du pardon parce qu'elle est elle-même le pardon. Et c'est dans ces noces-là, je suis sûr qu'il a dit ça. Il n'a pas laissé ses disciples. Ce n'est pas possible. Peut-être certains, mais pour certains d'entre eux, il a voulu lui livrer les secrets de Marie. Pierre, Jacques, Jean, peut-être. Que Marie était vierge. Les gens ne savaient pas. Les gens disaient qu'elle n'est pas vierge, puisqu'elle a eu des mariages avec Joseph. Jésus ne pouvait pas laisser ça, puisque la lumière de la vérité était proclamée dans le monde entier jusqu'à la fin. Et donc à moi, c'est impossible. Il vient et il le dit ouvertement. Si la lumière est cachée, secrète, il faut la mettre sur le lampadaire et sur la table des noces. C'est pour ça que pour moi, à partir du moment où il a commencé à dire, voilà, ma mère, c'est le trésor du ciel et de la terre. Ma mère, c'est la lumière elle-même incarnée pour donner la vie. Ma mère, c'est la mère de la grâce et de la sainteté. Ma mère, c'est
ça me plaît, ça. Des anaphores. Et il les amène en offrande sur le sommet de la montagne. Et il se met là pour prier. Jésus s'est mis à genoux. Il s'est pas affalé. Il s'est mis à genoux.
Se cache plus encore dans une virginité nouvelle et du coup c'est apparu.
pas mort
à l'heure d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, il va mourir. Puisqu'il revient, et là, il sera martyrisé par l'Antichrist. Voilà ce que dit la doctrine de l'Église, la doctrine de l'Ancien Testament de Moïse. Enfin, c'est pas Moïse d'ailleurs, parce que Moïse n'a pas connu, mais la doctrine des rabbins, des nations d'Israël. C'est aussi ce que dit la doctrine infaillible de l'Église. C'est aussi ce que confirme dans saint Thomas d'Aquin, par exemple. C'est également ce que dit, ce que confirme la Vierge à la Salette. Son réveil, bien sûr, il va revenir. Et il sera tué par l'Antichrist. Il est toujours vivant. Il est avec son corps, vous inquiétez pas. C'était pas son âme qui était là, à la transfiguration. Son âme est toujours restée inséparée du corps. Et Moïse, mais Moïse est mort sur le Sinaï. C'est son âme peut-être, mais non. Il était là avec son corps. Vous lirez ça dans l'épître, je crois, dans l'épître de Jude, que Moïse a discuté, et le Midrash, il faut que vous ayez lu au moins une fois dans votre vie le Midrash de la mort de Moïse, et qui ne sait pas comment Moïse est mort, c'est très mal, quoi. Une lutte entre Moïse et l'ange de la mort qui a été complètement incroyable. Il a dit non, 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 Seigneur, c'est pas question, je ne t'obéirai pas, je ne mourrai pas. Et c'est vraiment extraordinaire ce Midrash. Voilà une conversation, ça a duré plusieurs. Et puis finalement, il n'a accepté de mourir que quand Dieu lui a accordé que son corps ne serait pas livré aux démons. Comme le corps de tous les hommes à cause des péchés originels. Et du coup, son corps n'a pas été livré aux démons. Il a été porté en Dieu. C'est ce que dit l'Épître de Saint-Jude. Hein? C'est dans le Nouveau Testament, ça. Hein? Et voilà pourquoi, comme l'Immaculée Conception tire sa nouvelle virginité de la paternité incréée de Dieu au ciel, elle peut apporter à Moïse son corps. Et dans l'unité sponsale, la métamorphose de Jésus et de Marie dans la clarté de la plénitude finale de l'accomplissement du royaume de Dieu, il apparaît avec son corps, c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui ne comprend pas ça, j'allais dire, il a qu'à recommencer son catéchisme à zéro. Ah mais c'est vrai qu'on est rustre, un grégaire aujourd'hui. Grégaire, grégaire.
intégralement, du plus profond d'eux-mêmes. Jésus crucifié dans le mystère de la crucifixion, au centre même de la substance même de ce que représente cette Jésus, ce mystère de Jésus crucifié, cela sera marqué par un chiffre 6. Le bête des
récepteur principal, le rayonnement principal, le visage principal, le mérite principal. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de l'Immaculée Conception, reine du ciel et de la terre, de la Jérusalem glorieuse. Et la Jérusalem glorieuse annoncée dans le troisième mystère lumineux, Jésus signifie, c'est celui de ma mère, c'est celui de mon père. Voilà pourquoi Dieu le Père se fait entendre une deuxième fois. Celui-ci est mon aimé absolu, mon fils. Et cette fois-ci, le Père est tellement dans une nouvelle acte de foi de Marie qu'il répète ce que dit Marie dans les noces de Cana. Et au lieu de dire, faites tout ce qu'il vous dira, il dirait, écoutez-le. Le Père avait déjà parlé au baptême. Il avait dit, celui-ci, c'est mon aimé absolu. C'est l'aimance à l'état pur. C'est mon fils. Agapéton. Mais il n'avait pas dit, écoutez-le. Là, Marie a dit, tout ce qu'il vous dira. Voyez sa tête. Réalisez-le. Les aimés du bon Dieu, les aimés de Jésus, les aimés du ciel, les aimés de la Jérusalem, les aimés. miracle de l'unité sponsale en une seule chair de Joseph et Marie, glorifiés, enfin transfigurés en fait, métamorphosés, c'est ça, tout à fait, dans la lumière, il a pu avoir cette agilité, cette subtilité qui fait qu'il a traversé les portes du Cénacle sans l'abîmer. Marie a gardé sa virginité. Normalement, à supposer que vous ayez gardé votre virginité pour une conception, que vous ayez fait vivre pendant 9 mois un bébé, bon, eh ben, vous perdez votre virginité à la naissance. Et voilà. Une rupture. Pour ça, Jabbar. Rupture. À la naissance. La femme est faite pour ça, pour perdre sa virginité à la naissance. Aussi. Normalement, s'il n'y avait pas eu le péché originel, elle aurait perdu sa virginité peut-être qu'à la naissance. Et en fait, je ne crois pas, puisqu'elle serait sortie exactement pareil, dans un état de transfiguration. Voilà pourquoi Élie est là. Parce qu'il y a le sixième jour de la création qui est présent, ainsi que sa terre. Il y a la terre des enfers, des lieux inférieurs, avec Moïse, dans le corps spirituel qu'il conserve, dans les mains de Dieu du ciel empiré. Et il y a la terre d'Israël, la terre de l'Église, qui sont là présents. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette transfiguration, elle a commencé avec Jésus, Marie et Joseph, quand même. C'est pas pour montrer le Christ dans sa gloire, la résurrection future. Enfin, c'est pour montrer le Christ tel qu'il est.